Comme vous le voyez sur l'écran, ce matin, c'est le dimanche des missions. C'est important que nous puissions penser aux missionnaires, bien que nous-mêmes, nous soyons missionnés. Donc avant de passer en revue un peu tous les missionnaires que nous soutenons directement, il y a d'autres missionnaires qui nous visitent, mais ceux que nous soutenons directement, on va prier pour eux. On va passer un petit moment, et puis Vianney lui-même va se présenter en tant que missionnaire aussi, dans le cadre de cette matinée. Donc nous allons passer du temps pour vraiment être à l'écoute de ce que ces missionnaires font, et nous les présenter au Seigneur parce qu'ils font partie de ce corps que nous formons. Et nous voulons les soutenir, pas simplement financièrement, ce que nous faisons déjà, mais aussi par la prière. Alors pour introduire la notion de la mission, vous savez que mission, ça veut dire envoyer. Envoyer, nous sommes tous envoyés. Mais avant de parler de la mission, il y a quelque chose qui est important, c'est la vocation. Et je voudrais juste préciser ce point, que avant de parler de mission, il faut bien avoir en tête que on est appelé par le Seigneur pour aller en mission. Et si nous négligeons un petit peu ce point de la vocation, de l'appel, la mission ne pourra pas tenir très longtemps. Ou alors, la mission devient une corvée, devient une imposition, une obligation à faire la mission qu'on nous a donné. Il faut que, comme on l'a vu tout à l'heure pour les offrandes, faire les choses avec joie. Donc il faut que l'élément de base de la mission soit la vocation, soit l'appel. Donc l'appel précède la mission. Elle donne, eh bien, le sens de la mission. Elle donne le pourquoi de la mission. Elle nous aide à nous attacher à celui qui donne les capacités d'accomplir la mission. Sinon, nous revenons sur nos propres forces. Même chrétiens, on voit parfois des personnes qui, en mission, reprennent les choses en main, s'obligent parce qu'ils ont des objectifs, ils ont des choses à faire fonctionner. Hein, et ça, c'est un des drames, un petit peu, de la mission, entre autres, que ensuite, après, on devient dur avec ceux qui nous entourent parce que il faut faire fonctionner les choses. Mais c'est vrai pour n'importe quelle activité, hein, que ce soit l'activité des jeunes, de l'église, etc. Quand les choses marchent un petit peu, eh bien, il faut continuer à les faire marcher. Et alors, on reprend les choses en main. Et donc, la limite est très proche entre ce qu'on fait dans le monde et ce qu'on fait dans l'église. Et là, il faut faire très attentif. C'est pour ça l'appel. Si à chaque fois nous rappelons que c'est Dieu qui nous a appelés, que c'est Dieu qui tient les choses en main, que c'est Dieu qui nous donne les capacités pour accomplir la mission, alors nous sommes préservés déjà de ce danger de tomber dans le faire, dans l'obligation de faire des choses. Il faut se rappeler que Dieu prend soin de nous. Il connaît toutes choses, il connaît tout d'avance. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est dans les moments difficiles de notre mission, quand nous sommes en mission, dans les moments difficiles que nous pouvons nous rappeler que c'est Dieu qui nous a appelés. Et alors, nos yeux ne se regardent pas sur la difficulté, ils regardent vers le Seigneur. Et on peut continuer le chemin. La mission, en fait, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Dieu appelle. Et nous on répond. C'est ça qui est merveilleux, c'est que nous sommes en relation avec une personne vivante. C'est Dieu qui nous donne la vie, qui lui est la vie, qui nous donne la vie. Il nous appelle et nous répond. Et donc c'est la mission, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Voyez-vous? Donc les deux sont liés, bien sûr, mais l'appel est plus important parce que c'est Dieu qui donne la vie pour accomplir la mission. C'est Dieu qui donne l'énergie, c'est Dieu qui nous donne les capacités pour le faire. Hein. Si le matin on se lève, on n'a pas l'énergie, on ne peut pas faire le travail qu'on a à faire. Et c'est en regardant vers le Seigneur, justement, dans notre culte quotidien avec le Seigneur, on peut dire: Seigneur, merci pour cette énergie que tu me donnes aujourd'hui pour accomplir les promesses que tu m'as données pour accomplir ta mission. Donc c'est l'obéissance. La mission, eh bien, nous amène à l'obéissance à Dieu. Rappelez-vous, Jésus, dans ses moments les plus difficiles, en particulier quand il est arrivé devant la Golgotha, devant la croix, où il a dû porter tous les péchés de l'humanité, il était sur le point de craquer, et on le comprend, puisqu'il était un homme. Et il avait cette limitation à ce moment-là d'un homme, et ce poids qu'il a reçu, cette mission qu'il a dû porter pour être l'agneau de Dieu, l'agneau qui porte les péchés du monde, eh bien, quand il a reçu ce fardeau, à tel point que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, il a dit: Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Mais que ta volonté soit faite. Il s'est rappelé qu'il était appelé par son père pour cette mission. Voyez, et que son père allait lui donner les forces jusqu'au bout. Voyez-vous. Donc ne nous décourageons pas dans la mission, mais rappelons-nous que nous sommes appelés, que Dieu un jour nous a appelés. Et si là nous l'oublions, eh bien nous pouvons être durs avec les autres qui sont avec nous dans la mission. Parce que on ne peut pas comprendre cette démarche. Cette démarche, c'est que chacun de nous, nous devons regarder au Seigneur pour recevoir ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission. Et le but, hein, vous savez que dans la vision, dans notre vision d'Église, il y a la vocation, la mission et le but. Le but, bien sûr, c'est de regarder vers l'espérance, regarder vers l'aboutissement, regarder ce que ça donne. Hein. Jésus, il savait qu'il avait été avec une mission, il avait la mission de sauver l'humanité. Qu'au travers de ce corps, de son propre corps qu'il allait livrer en sacrifice, eh bien, il allait accomplir le sacrifice et la rédemption de l'humanité. Et donc ça aussi, ça lui a donné le courage de continuer. D'une part, regarder à Dieu, qui va lui donner la force, et d'autre part, au but qu'il allait atteindre, c'est que de rétablir l'humanité dans ce que Dieu a voulu au départ, c'est-à-dire glorifier Dieu lui-même. Et donc, si nous avons l'appel, si nous avons le but qui nous donne l'espérance, eh bien, nous pouvons avancer dans la mission. Donc, sans l'appel, la mission risque d'être arrêtée. Vous avez certainement beaucoup d'exemples en tête, en tout cas, bon, j'en ai plusieurs, où il y a des personnes qui ont été appelées en mission, et puis ça n'a pas marché comme ils espéraient dans la mission. Je pense à Osborne, vous connaissez Osborne et sa femme Daisy, on les connaît bien, en tout cas Michel très bien. Eh bien, Dieu les a envoyés, je ne sais plus dans quel pays d'Asie, ils sont allés, c'était une catastrophe, et pourtant ils avaient l'appel. Mais rien n'a marché. Tout ce qu'ils ont récupéré, c'est de la maladie. Et ils ont dû revenir aux États-Unis sur leur base arrière, se replacer devant le Seigneur et repartir ensuite. Et après, le ministère d'Osborne a été un des plus importants, et toujours le plus important au niveau de la guérison divine. Mais ils ont été éprouvés dans leur mission. Et très souvent, lorsque nous voulons faire la mission par nos propres efforts, même si c'est inconscient, eh bien le Seigneur, quand il veut nous donner vraiment de rentrer véritablement dans notre mission, il nous fait réfléchir. Vous avez aussi eh bien, la fondatrice de Foursquare, hein, Makeme Sample, elle s'est mariée avec quelqu'un qui venait d'Irlande, qui était à l'origine du réveil du Pays de Galles. C'était un homme très très rempli du Saint-Esprit pour la mission. Ils sont partis dans les Philippines et ils ont attrapé la malaria. Lui, il est mort. Elle a récupéré la malaria aussi. Ils ont dû rentrer. Elle a dû rentrer. Après, elle s'est mariée avec MacPherson, un autre. Et son ministère a démarré. Mais elle était éprouvée dans la mission. Elle a dû s'accrocher pour dire: Seigneur, tu m'as appelé pour être une évangéliste. Vous avez aussi Lord Cunningham, celui qui est fondateur de Jeunesse en Mission. Avec la première fois où Dieu lui a montré en vision un bateau Je crois même qu'ils l'ont acheté. Hein, vous avez ça dans son livre de témoignage. Ils ont dû le revendre ou le donner, je crois, à quelqu'un d'autre. Et Dieu avait un autre projet derrière eux. Il fallait que cette première vision, ce que Dieu leur avait donné, meure pour l'apporter sur l'autel. Vous voyez, très souvent, il faut que nous apportions nous-mêmes en sacrifice pour que nous sachions que c'est de Dieu que nous viennent les choses pour accomplir la mission. C'est aussi vrai pour moi, pour Michel, où Dieu nous a appelés au ministère. Et bon, certaines choses ont marché et d'autres, c'était plus difficile. Et Dieu a dû nous ramener au départ en disant, l'Église, il faut être fondée sur moi, sur le rocher que je suis. Et pas sur des forces humaines, pas sur des artifices qu'on pourrait récupérer du monde pour faire marcher les choses. Nous ne pouvons pas agir dans l'Église comme nous agissons dans le monde. Même s'il y a des choses similaires, même si, bien sûr, vous savez, quand on se convertit, on ne devient pas un ange, vous le savez. Hein? Sur ceux qui sont mariés, ils le savent. Hein? On ne devient pas un ange. Hein? Mais, bon, les Anglais, ils ont ce mot qui s'appelle enhance, c'est-à-dire il nous expand. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il augmente nos capacités naturelles pour les rendre surnaturelles. C'est-à-dire notre intelligence, il nous l'ouvre pour comprendre la parole. Notre âme, il nous l'ouvre pour que nous puissions aimer ceux qui ne sont pas aimables. Voyez-vous? Donc il donne des capacités plus grandes. Mais nous gardons des émotions, nous gardons une intelligence, nous gardons une volonté, mais elle est transformée, elle est magnifiée, si vous voulez, elle est amplifiée, voyez-vous? Mais le problème, c'est ça, c'est que si notre orgueil, qui est naturel, c'est la base de tout péché, hein, l'orgueil, c'est le fait de dire, moi, je peux y arriver tout seul. C'était la chute de Lucifer. Hein, Lucifer, il conduisait la louange et d'un seul coup, il a eu l'idée que cette louange pouvait le servir lui, au lieu de servir Dieu, qui devait servir devant son trône. Et donc, d'un seul coup, l'idée lui est venue de détourner cette louange sur lui. C'est l'orgueil. C'est moi, je suis Dieu. Alors qu'en fait, il n'est qu'une créature, peut-être merveilleuse, la plus merveilleuse que Dieu ait fait. Mais l'orgueil est toujours là. Le fait de dire, moi, je pars en mission, mais je peux, peut-être cette mission peut m'aider quelque part, voyez-vous. Peut-être financièrement ou autre, je ne sais pas. Je sais que avec le pasteur Vernon, on a un peu discuté. Et lui, sa vision des pasteurs, enfin la plupart des pasteurs africains qui viennent en France, c'est les fêtes. Hein, il dit que ce n'est pas des vrais pasteurs, hein, c'est des gens souvent qui profitent de l'appât du gain que donne la construction d'une église pour vivre. Et ce n'est pas du tout vraiment ce que Dieu attend de nous. Hein. C'est pas de moi, hein, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien l'Afrique et ce qui s'y passe. Mais je veux dire, on ne peut pas jeter de la pierre à personne, simplement nous, chacun de nous, nous sommes, nos tendances sont de marcher par l'orgueil, de nous débrouiller tout seul. C'est pour ça que l'appel est important, de toujours nous rappeler que c'est Dieu qui nous appelle. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir une mission si c'est Dieu qui nous appelle. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer, faire des choses pour le Seigneur si ce n'est pas lui. Et ça, c'est l'humilité. Jésus a vécu l'humilité. Bien qu'il soit Dieu, il nous a montré l'exemple. Et c'est dans l'humilité que nous pouvons faire les plus grandes choses. C'est lorsque nous restons dans l'humilité. Donc, nous sommes tous au même niveau. Donc je voudrais parler rapidement de cette vocation. Donc la vocation, la mission et le but sont les directions d'une vision. Et il y a plusieurs choses au niveau de la vocation. Je vais aller très vite. Et on va lire dans Timothée, la deuxième épître aux Timothée, chapitre 1er. Et je lirai les versets 6 à 9. C'est un rappel que Paul fait à Timothée, hein, qui était un petit peu son poulain dans la mission de Paul. Et voilà ce qu'il lui dit. C'est pourquoi, Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Voyez-vous, là, Paul, on parle de la souffrance dans la mission. On voit le grand Paul qui fait des choses extraordinaires, mais il y a une souffrance derrière, parce que on se heurte bien sûr à l'opposition, à l'opposition du monde, l'opposition des forces spirituelles, pour que nous puissions continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais Paul rappelle à Timothée, il dit « Ranime le don, la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » Et vous, très souvent, quand nous rencontrons le Seigneur, pour la plupart, il y a une grande flamme qui s'allume, il y a un appel qu'on reçoit, il y a la présence de Dieu qu'on ressent et tout ça. Et ensuite, après, les difficultés, quand on est dans la mission, quand on travaille pour le Seigneur, quand on a les difficultés de ce monde, eh bien, cette flamme a tendance à diminuer. Et le Seigneur veut que nous la ranimions. C'est aussi le message aux églises de Laodicée, aux églises de l'Apocalypse. Hein. Ranime le don que tu as reçu. Et c'est en ayant toujours cet appel, donc cet appel de la vocation éternelle, que nous sommes faits pour glorifier le Seigneur. Voyez-vous, Dieu nous a fait, nous ne sommes pas venus parce que nous l'avons décidé. Personne d'entre nous a décidé de venir au monde. Vous êtes d'accord? C'est vos parents qui l'ont peut-être décidé, mais eux-mêmes ne l'ont pas décidé, etc. Et si vous remontez jusqu'au début, eh bien, l'être humain n'a pas décidé de venir. C'est Dieu qui, dans sa préscience, a décidé de nous créer. Et il l'a fait pourquoi ? Pour sa gloire, pour le glorifier, parce que il a fait une œuvre merveilleuse. Quand vous faites une œuvre d'art, pour ceux qui sont artistes, quand vous faites quelque chose de beau, eh bien, ça vous glorifie dans le sens où ça magnifie tout ce qui est en vous, toutes les beautés que vous voulez exprimer. Vous voyez, c'est une beauté, c'est une création extraordinaire que vous faites. Eh bien, Dieu, quand il nous a fait, eh bien, nous sommes dans la hiérarchie de la création par rapport aux animaux, par rapport à la nature, eh bien nous sommes la créature la plus belle. Et c'est peut-être la femme encore la plus belle, parce qu'elle est venue à la fin, comme certains disent. Mais c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Et justement, si nous rappelons que nous sommes appelés de Dieu pour la mission, eh bien, nous allons nous détourner de notre gloire pour dire Seigneur, à toi la gloire. Et c'est aussi le sens de la louange qui, justement, est un domaine où l'ennemi veut centrer les gens de la louange sur eux-mêmes, alors que nous devons toujours centrer la louange sur Dieu. Donc la vocation éternelle, c'est de glorifier Dieu. Dans Romains 8, vous connaissez tous ce magnifique passage de Romains qui montre que nous sommes là pour glorifier le Seigneur, glorifier Dieu. Et vous savez, au temps de la Réforme, en particulier Jean-Sébastien Bach, qui a écrit beaucoup d'hymnes pour le Seigneur, il mettait « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Et les réformateurs, c'était leur motto, à Dieu seul la gloire. Et c'est toujours ce que nous devrions avoir en tête, c'est glorifier le Seigneur. Et tout le chapitre 8, hein, ce serait trop long à lire, eh bien, il magnifie la gloire de Dieu. Il parle de cet esprit qui vient à notre secours dans la faiblesse, qui nous aide à marcher dans la persévérance, etc. Vous pourrez le lire chez vous. Paul, il montre que après la loi, après tout ce que Dieu a voulu faire dans le passé, eh bien, il a terminé par l'œuvre de Jésus, qui, lorsqu'elle nous est donnée, eh bien, nous pouvons manifester sa gloire. Parce que Jésus est l'homme parfait. Celui que Dieu a voulu depuis le départ. Il a vécu en tant qu'homme qui glorifie réellement Dieu. Et si nous l'avons comme modèle, si nous suivons le Seigneur, c'est pourquoi notre modèle en tant que chrétien, ça doit être Jésus. Parce que Jésus est celui qui est parfaitement accompli la volonté de Dieu. pour l'humanité. Et en tant qu'être humain, il a parfaitement glorifié Dieu. Et si nous suivons Jésus, eh bien nous suivons le modèle que Dieu veut que nous soyons. Et nous avons été prédestinés. Jérémie le dit, même dans le ventre, avant qu'il ne naisse, il était prédestiné. Jean-Baptiste a été prédestiné. Paul a été prédestiné. C'est toute cette notion de prédestination qui, d'ailleurs, chez Calvin, a été peu détournée par ses successeurs. Mais il écrivait, quand il était à Genève, à ceux qui étaient en France, persécutés, les petits groupes qui se réunissaient, il disait, si Dieu vous a appelé et qui vous a prédestiné, il va vous garder. Parce qu'il se posait la question, comme ils étaient persécutés, s'ils ne devaient pas se compromettre un petit peu avec le catholicisme pour quand même avoir la liberté que les enfants... Bon, c'était une question légitime qui se posait. Calvin dit non, si vous avez été prédestiné, si Dieu vous a appelé, il va vous garder dans cette persécution. Donc maintenez ferme, ne faites pas de compromis. Restez ferme dans la foi. Et donc il les encourageait à cette... par la prédestination, par le fait que si Dieu nous a appelés, eh bien, même si nous passons par des difficultés, par la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, regardons au Seigneur, parce qu'il va nous garder dans cette difficulté, et puis quand l'épreuve sera passée, nous aurons sujet de le glorifier. Donc il y a une vocation éternelle, prédestination d'être ses enfants, une vocation universelle, c'est d'être frères et sœurs en Christ. Nous sommes un seul corps. Nous sommes serviteurs, nous sommes témoins, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Tout un tas de vocabulaire différents qui nous montrent que nous sommes utilisés pour glorifier le Seigneur à différents niveaux. Notre être tout entier doit être consacré au Seigneur comme corps, âme et esprit pour le glorifier. Où il voudra, l'endroit où il va nous appeler, où il voudra, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ensuite, il y a une vocation personnel. Toi, suis-moi. Jésus, il s'adressait à Matthieu, à André, à des différents disciples, il dit, toi, suis-moi. Et il nous adresse toujours un message personnel. Il nous appelle personnellement. Dieu nous connaît, dans sa préscience, il sait qui nous sommes et ce que nous allons faire, mais il attend de nous une réponse. Il attendait que des personnes disent qu'ils le suivent. Et certaines personnes ne le suivaient pas, comme le jeune homme riche. Dieu lui en a pas voulu. Enfin, Jésus ne lui en a pas voulu. Mais il l'appelle personnellement à ce que nous le suivions. Il est dit dans le Nouveau Testament que l'Église a mis, enfin, que le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas. Il avait un plan précis et Dieu a appelé Paul et Barnabas pour son service. Et chacun de nous, nous avons une tâche précise. Et cette tâche, Dieu nous la donne et nous devons eh bien, la discerner. Il y a aussi une vocation collective. Vous prenez le cas d'Israël. Israël est une nation que Dieu a choisie collectivement, un peuple. Et lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont devenus un peuple, alors qu'ils étaient juste une famille, une famille de Jacob. Et à la sortie de l'Égypte, ils étaient un peuple. Et ce peuple, Dieu eh bien, avait donné cette promesse à Abraham que ce peuple serait utilisé par lui. Et il l'est encore aujourd'hui, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est pourquoi nous allons aussi prier pour Israël tout à l'heure, qui est aussi malmené en ce moment. Parce que, bien sûr, à vues humaines, si on prend les vues humaines, bien sûr, il y a des choses qui échappent parce que les Israélites eux-mêmes font des choses qui déplaisent à Dieu, certes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu a choisi un peuple et il va accomplir, il va confondre la sagesse des hommes par sa propre sagesse. Donc c'est à nous de discerner comment Dieu agit pour que nous soyons dans le plan de Dieu. L'église locale aussi. Chaque église locale a un appel particulier, un appel, une vocation particulière. Et il y a des églises qui sont appelées à certaines tâches, à d'autres, et Dieu équipe les personnes de cette église pour accomplir cette tâche. Je crois que pour nous, le Seigneur nous a appelés à nous occuper des familles, et le Seigneur donne ses dons pour constituer des familles qui soient à sa gloire. Donc, là aussi, discerner la vocation collective pour être ensuite missionnaire, pour agir selon cette mission. Cet appel. Et enfin, il peut y avoir des vocations successives aussi. Vous prenez Paul, par exemple. Paul, il est en Asie mineure, en Turquie actuelle, où il a fondé les églises. Ensuite, après, il était en prison. Hein, c'est une drôle de mission d'être en prison. Mais il savait que Dieu le voulait là, voyez-vous. Et il n'a pas regimbé en disant, oh, maintenant, il faut que j'aille là-bas. Il a utilisé le temps qu'il était en prison pour continuer sa mission. Il était évangéliste, hein, donc il évangélisait un petit peu partout. Ensuite, après, il a fondé la première église de l'Europe, en Macédoine, quand il a eu cette vision de ce Macédonien qui l'attendait. Donc il a dû traverser la mer pour aller en Macédoine, et c'est là qu'il a fondé l'église de Philippe, des Philippiens. Et donc, Paul aussi a été un pionnier, il était aussi un docteur. Et vous, il avait plusieurs vocations. David était un homme d'État, un chef d'État, mais aussi un homme d'épée, un guerrier. Et il était chantre aussi, il avait, voyez-vous, différentes missions, différents appels. Je prends Jack Efford aussi, qui est donc dans Foursquare, eh bien, il est autant fondateur d'une église que d'un collège, que compositeur, écrivain, président de Foursquare, etc. On peut avoir des missions successives, vous voyez. Parfois, on s'attache à une mission, enfin, on s'attache à dire, tiens, ça c'est mon appel, ma vocation, mais il faut suivre Dieu. Parfois, il nous donne ça, et ensuite, il nous donne autre chose, et il faut être capable d'accomplir toutes les missions auquel Dieu nous appelle. Donc, je voulais insister sur cet aspect de la vocation, de l'appel, parce que ça nous aide à vraiment accomplir notre mission selon la crainte de Dieu. Donc, l'Église a une mission collective. Vous savez que pour nous, l'Église a l'ensemble de ces cinq missions: former des disciples, adorer Dieu seul, intercéder. Donc, nous voulons faire une maison de prière pour toutes les nations, et rassembler le corps de Christ, évangéliser et servir, c'est les principaux éléments de notre mission à laquelle nous voulons nous attacher ici dans cette église de corps local. Mais chacun de nous, en plus de cette mission collective, a une mission personnelle, c'est être témoin dans toute sa vie, dans toute l'expression de son être, de manière personnelle, de manière là où Dieu nous appelle. Et ça aussi, nous devons l'accomplir. Et pour cela, nous avons besoin d'une formation, que ce soit une formation initiale ou une formation continue, parce que Dieu veut nous qualifier pour ce travail. Et très souvent, la formation se fait sur le terrain. Hein, moi, j'ai appris des choses, mais c'est dans la pratique que ça permet vraiment de comprendre les mécanismes et de mettre en œuvre ce qu'on a appris en théorie de quelqu'un d'autre. Voilà, donc nous allons passer en revue un peu les missionnaires, et je vous proposerai à ce moment-là à chaque fois de prier pour eux. Donc c'est d'abord Elsa, hein, qui est actuellement en formation initiale, hein, bien que ce soit sa première formation, mais formation de fondement initial, hein, comme c'était le cas pour Florence, Samuel ou Charles, CFNI. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça nous a donné un peu l'idée, quand on avait fait venir Marc Brisebois ou Abraham Kiss, enfin, ceux qui se rappelaient de ces serviteurs qui nous ont aidés à prendre position de ce local pour avoir la victoire spirituelle. Ils nous avaient dit qu'aux États-Unis, au Canada, les familles chrétiennes avaient l'habitude, avant de rentrer dans l'université, de leur faire faire une année, au moins une année, d'école biblique. Fondements, même s'ils ne deviennent jamais pasteurs ou ils sont en plein temps, mais de les former spirituellement pour avoir les éléments de compréhension du royaume de Dieu. Et ça nous a vraiment inspiré pour que nos enfants fassent la même chose. Et Elsa a eu à cœur, et je crois que c'est vraiment le plan du Seigneur pour la former, vraiment, pour toute la former à recevoir les implémentations, hein, de ces éléments du royaume. Et quand on a ces éléments du royaume, après, on peut vivre une vie de victoire. Parce que on vit beaucoup moins en dents de scie que certains chrétiens qui vivent un peu leur foi sur les sentiments. Mais quand on les vit sur des principes et je crois qu'elle reçoit des bons principes. Hein. Je ne sais pas quels sont les éléments de retour, mais je sais qu'à Kingdom Faith, ce qui dirige cette organisation, c'est Colin Urquhart, qui a été visité par le Saint-Esprit il y a une quarantaine d'années, il était anglican, et il a été visité par le Saint-Esprit, et vraiment, il fonde tout ce qu'il fait, toutes les églises qu'il fonde, et son enseignement sur les principes du royaume. Et son fils et sa fille qui conduisent l'église à Horsham, qui est juste à côté de Gatwick, c'est un aéroport anglais. Donc cette école biblique est là-bas et Elsa est là-bas jusqu'au mois de juin, c'est ça? Elle va venir à Noël. Ouais. Voilà. Mais normalement, les cours s'arrêtent au mois de juin? Ah, c'est août, oui, parce qu'il y a l'aspect pratique aussi derrière. Voilà. On va peut-être demander Voilà Isabelle, mais je cherchais aussi les enfants, mais je ne les vois pas. Donc j'étais. Non, mais on ne veut pas les chercher. Mais s'il y en avait un, j'aurais demandé de venir. Donc tu représentes un peu Elsa, hein, si tu veux venir devant. Oui, tout de suite. Parce qu'on va prier, hein. On va passer un petit moment pour prier pour Elsa, pour que le Seigneur puisse vraiment utiliser ce temps pleinement. Je sais qu'elle est vraiment dans ce qu'elle fait, hein. Et elle reçoit, mais on va l'entourer de nos prières, si vous voulez bien. Alors, je vous invite à vous lever, et tous ensemble, on va élever nos voix pour que nous puissions bénir Elsa dans cette formation qu'elle reçoit, pour que ce soit une structure dans sa vie qui lui permette d'aller jusqu'au bout dans sa destinée, dans le plan que tu as pour elle, et qu'elle puisse transmettre ces choses à ceux qui l'entourent. Prions pour elle maintenant. Alléluia. N'ayez pas peur d'élever vos voix, hein. Vous ne gênez personne, mais priez pour Elsa maintenant. Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur Elsa. Tu la bénis, Seigneur. Merci parce qu'elle est en bénédiction, en premier pour sa famille aussi. Seigneur, de tout ce qu'elle reçoit, qu'elle puisse le transmettre. Merci pour ce temps, Seigneur, qu'elle va passer à Noël avec sa famille, Seigneur. Tu la bénis, Seigneur, et tu la réjouis, Seigneur, de tout ce qu'elle a reçu, qu'elle puisse vraiment en faire part. Et tu bénis Isabelle, tu bénis Yves, Seigneur. Et Seigneur, merci de ce que ils ont laissé vraiment Elsa faire cette expérience, Seigneur. Tu les bénis en retour, hein, au travers de tout ce qu'elle est pour elle, pour eux, Seigneur. Seigneur, tu es béni pour qu'ils soient aussi en bénédiction pour ses frères et sœurs, Seigneur. Merci aussi pour l'Église qui est bénie, Seigneur, au travers de ton ministère. Seigneur, tu la fortifies, tu la renouvelles à l'instant même. Et merci, Seigneur, de ce temps que tu lui accordes là-bas. Seigneur, tu pourvois aussi à l'avenir, Seigneur. Tout est dans ta main. Tu bénis aussi, Seigneur, la recherche d'un conjoint, Seigneur, pour qu'ensemble, ils puissent te servir, Seigneur, dans la dimension du royaume. Seigneur, merci de leur accorder ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, le deuxième missionnaire, c'est Vianney. Vous avez la chance de l'avoir au milieu de nous. Donc, qui est en formation initiale? J'ai pas choisi les photos, hein, j'ai pris celles qui étaient sous la main. Il n'y a pas d'intention. Donc Vaux-sur-Seine n'est pas loin. Il y en a qui n'ont jamais été à Vaux-sur-Seine, ça peut me lever la main. Qui n'ont jamais été sur les lieux. Bah, c'est juste de l'autre côté de la Seine, hein, après Melun, en descendant Triel, voilà. Vaux-sur-Seine. Donc c'est des bâtiments qui ont été achetés dans les années 50, non 60, je crois, au début 60. Et ça a été fondé par les anciens, des ministères, hein, en France qui étaient des fondateurs hein, du style descendant de Sayens, Rubin Sayens, les Nicole, Blocher, etc. Enfin bon, c'est vraiment des familles solides dans la foi. Et donc là, il y a, je crois, c'est le conseil d'administration, je ne sais plus. Donc il y a Monsieur Nicole qui est là à droite. Qui conduisent cette faculté. Alors, cette faculté a quatre lignes directrices, c'est un héritage, un morceau d'église, la foi en quête d'intelligence et un cœur missionnaire. Et donc, elle veut former des ministres du culte, mais surtout des gens dont la théologie est solide. Et c'est vrai que toute la question de l'intelligence, par exemple, là, qui est signalé ici, la quête d'intelligence, Thomas d'Aquin, il cherchait à faire l'inverse, il cherchait à mettre l'intelligence au service de la foi, voyez. Alors que là, c'est vraiment mettre la foi au service de l'intelligence, c'est d'avoir une intelligence renouvelée. Et j'aime beaucoup, par exemple, Henri Blocher, qui est d'une extrême intelligence, mais qui, quand il parle dans ses conférences, il dit Mon Seigneur. Il parle avec révérence de ce Seigneur qui est le sien et qui le met en premier dans sa vie. Donc j'aimerais laisser la place à Vianney, qui nous dise un mot aussi de ce qu'il vit, et je crois qu'il y a une partie de ce qu'il veut nous partager, qu'il vit en ce moment, pour lequel nous allons prier. Je serais peut-être plus libre avec ça, mais je ne sais pas s'il marche. Ah oui, non. Il n'y a pas de pile dedans.
Vous m'entendez là?
Là, on va t'attendre.
Et là, vous m'entendez. Ah, oh là, pétard. Vous m'entendez forcément.
Je peux baisser.
Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je voudrais vous partager au moins deux choses. La première, je voudrais rappeler les propos de notre cher doyen Jacques Buchold par rapport à un peu les quatre points de la vision de la fac de Vaux-sur-Seine. Je ne vais pas insister sur tous. Je voudrais surtout insister sur le fait que la faculté est un morceau d'église. Alors, il nous rappelle ça souvent, quand on entend ça, on ne voit pas forcément immédiatement à quoi ça fait référence. En quelques mots, pour utiliser son vocabulaire, les principaux clients de la faculté, ce ne sont pas les étudiants. Ce ne sont pas les étudiants qui viennent étudier, ce ne sont pas ceux qui viennent se former. Ce sont les églises qui les envoient. Et les principaux clients de la faculté, c'est vous. Alors, à travers des gens comme moi, c'est pas vous qui bûchez sur l'hébreu, les grecs, c'est sûr, mais c'est vous qui vous donnez les moyens, par les finances, par la prière, d'avoir des responsables, des futurs responsables qui soient formés le mieux possible et qui soient riches de tout l'héritage qu'on apprend là-bas. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Dans nos rapports ecclésiaux, mais aussi dans nos rapports les uns avec les autres, parce que la faculté ne fera rien sans vous, et surtout sans votre prière. On se dit qu'on est entre théologiens, des gens qui veulent se former pour la parole de Dieu, c'est forcément plus simple, détrompez-vous. Ça n'est pas toujours simple. La vie communautaire, ça n'est pas non plus toujours simple. Et c'est excellent pour le travail du caractère. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à confier la faculté de Vaux-sur-Seine dans vos prières, et en particulier l'équipe de l'administration et des professeurs qui sont débordés, qui croulent sous les responsabilités et aussi sous les difficultés. Beaucoup de nos professeurs sont malades, beaucoup de femmes de nos professeurs ont parfois des cancers, ce genre de choses. On le sait peu, ils nous en parlent peu parce qu'ils ne viennent pas là pour ça, mais ils donnent énormément de temps, d'énergie, de leur capacité. Et c'est bien qu'on puisse les soutenir du mieux qu'on peut. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister au niveau de la faculté, c'est le cœur missionnaire. C'est une des choses les plus essentielles pour la faculté. C'est que on est conscient que quand on fait de la théologie, on brasse souvent beaucoup de hautes idées, on est dans des hautes sphères très théoriques. Et ça n'a aucune valeur si ça n'est pas relayé dans la pratique. Si on ne connaît pas les besoins de l'Église, on ne se connaît pas les uns les autres, on ne sait pas ce qui se passe dans les églises d'autres sensibilités que la nôtre. Et on ne peut amener un vrai message qui soit efficace et qui édifie les gens que si on les connaît et que si on se frotte un peu à la pâte humaine. Donc la faculté nous encourage beaucoup à partir en mission, à s'investir dans nos églises, etc. Je pense que c'est une excellente chose. Et donc dans cette lignée-là, Dieu m'a attrapé au tournant et il m'a préparé une mission à laquelle je ne m'attendais pas du tout. et que je crois que je n'aurais jamais pu espérer dans ces termes-là. Je pense que vous le savez, je viens d'un contexte catholique, et j'ai un grand amour pour l'Église catholique et pour l'héritage qui est juste de garder. Alors, je tiens à vous rassurer, je reste pleinement évangélique. Sur le plan doctrinal, je ne transgresserai pas. Mais je pense que l'Église catholique a une vraie richesse et en tout cas une vraie soif de connaître la parole et d'avoir des relations fortes. Ma famille est plus ou moins très pratiquante en fonction des uns et des autres et j'ai un petit frère qui est au séminaire dans le sud, à Toulon, et qui a intégré cette année une communauté qui s'appelle la Fraternité Missionnaire. Alors, mon petit frère, c'est assez rigolo, vit à peu près la même chose que moi, mais dans le milieu catholique. Il est dans une communauté, il étudie la théologie, la communauté en question a à peu près la même vision que la faculté de Vaux-sur-Seine, le cœur missionnaire, la foi en quête d'intelligence, un morceau d'église, etc. Et finalement, j'ai pu, cet été, faire une grande mission d'évangélisation avec eux, et j'ai découvert cette fraternité missionnaire, et j'ai l'impression d'avoir découvert des frères dans la foi, du côté catholique, mais vraiment, il y avait une amitié très forte entre nous. Et chose étonnante, j'ai été convoqué par l'évêque du diocèse. L'évêque, c'est le plus haut responsable de l'Église catholique sur un diocèse. L'évêque, dans un diocèse, est libre de tout. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas le pape qui décide de tout. L'évêque est souverain dans son diocèse. Et l'évêque m'a convoqué en me demandant un petit peu qui j'étais, ce que je voulais, quelle était ma vision, ma vocation, ce que je faisais. C'est l'évêque du Var, il s'appelle Monseigneur Ray, et c'est Toulon, Marseille, tout ce diocèse-là. Et il a eu une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, je lui ai dit que mon cœur c'était d'enseigner les catholiques dans les voies de la parole, et de les aider à découvrir un peu la louange, un peu plus. Et il a dit, bon, il faut qu'on trouve le moyen que tu puisses vivre ton appel au sein de l'Église catholique sans renoncer à qui tu es et en restant évangélique. Et c'est historique. C'est très très rare qu'un évêque ait cette ouverture d'esprit. Donc il a passé quelques coups de fil. Et voilà que je pars pour une nouvelle aventure où je vais partir en mission régulièrement dans l'année avec la fraternité missionnaire pour être un évangélique au sein du catholicisme. Et je crois que je ne pourrais pas le faire sans votre prière, pour deux raisons. D'abord, André l'a bien souligné, au niveau de l'orgueil, c'est sûr que quand on travaille dans le domaine de la louange, de l'enseignement et de l'unité, on devient une cible privilégiée. Et sachant que l'orgueil est peut-être une de mes fragilités importantes aussi, je ne pourrais tenir dans l'humilité et dans le service que si vous vous engagez avec moi dans la prière. D'autre part aussi, parce que je ne pars pas seul. Je ne pourrais pas partir seul. Et je ne peux partir que si je sais que j'ai derrière moi une armée d'intercesseurs qui se positionnent pour que ce soit vraiment l'œuvre de Dieu qui se fasse. D'une part, pour que moi, je ne sois pas tenté de faire des compromis au niveau de la parole et de la doctrine. A priori, il n'y a pas trop de risques. Mais surtout, plutôt dans l'autre sens, pour que je puisse amener avec miséricorde, compassion, la forme, un certain nombre de choses, sans être un peu trop tranchant sur certains points délicats. Voilà. Alors, il y a une vraie sagesse dans nos rapports les uns avec les autres. Ce sont tous des séminaristes, donc formés en théologie. On peut avoir certains débats, on essaye de ne pas en avoir d'autres. Mais ce qui nous motive à l'essentiel, ce n'est pas d'avoir de grands débats théologiques, c'est de pouvoir servir Dieu ensemble, de pouvoir prêcher Christ ensemble, de pouvoir amener des gens à la conversion et de pouvoir amener l'Église à une plus grande compréhension de la parole et de la louange. Donc voilà, je vous remercie de votre prière et de votre bienveillance à cet égard.
Voilà, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier pour Vianney et pour ce qu'il vient nous partager. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'appel que tu as sur Vianney. Merci de ce que tu l'as éclairé à propos de ta parole et de ce qu'il tient ferme, Seigneur, sur les fondements que tu lui as donnés, Seigneur. Mais merci aussi de ce que tu lui donnes cette ouverture pour toucher le peuple catholique, toucher nos frères catholiques, Seigneur, pour les éclairer, pour les aider, Seigneur, pour partager, pour communier, Seigneur. Nous te prions de le bénir, Seigneur, c'est toi qui l'envoies, mais Seigneur, c'est aussi nous qui l'envoyons. Et nous le soutenons par la prière. Et nous voulons vraiment nous engager, Seigneur, à le faire, parce que c'est aussi nous qui sommes engagés avec lui dans cette aventure de foi. Seigneur, merci parce que dans ce pays, tu appelles les catholiques, Seigneur, à une plus grande consécration, une plus grande connaissance de toi. Et nous te remercions de ce que tu as utilisé Vianney pour le faire. Merci de ce que tu le formes pour cela, Seigneur. Mais donne-lui, Seigneur, en effet, de rester dans l'humilité, de ne pas s'approprier quoi que ce soit, une gloire quelconque, mais qu'il puisse toujours regarder à toi et, Seigneur, rester dans cette humilité. Merci de ce qu'il le souhaite, Seigneur, il le demande pour nous, pour l'autorité spirituelle que nous représentons, Seigneur. Merci de le fortifier, le bénir, Seigneur, dans cette nouvelle mission, et que tu puisses bénir aussi toute sa famille, afin qu'ils puissent le suivre et continuer à le soutenir comme ils le font. Seigneur, merci parce que tu as un plan et nous te remercions pour ce plan que tu déploies. Bénis aussi toute cette faculté, aussi les soucis que nous a partagé Vianney pour les femmes de ces professeurs. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les fortifies. Seigneur, que tu soulages aussi de toutes ces responsabilités en leur donnant un fardeau qui est léger, qui puisse s'attendre à toi. Seigneur, merci de souffler sur cette communauté, Seigneur, sur cette faculté. Et que, Seigneur, elle puisse continuer à être ce phare, ce flambeau pour toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
J'ai juste oublié de préciser, du coup je ne serai pas là la semaine prochaine et la semaine d'après parce que je pars deux fois en mission les deux week-ends. Voilà, c'est pour tout de suite. Merci beaucoup.
Voilà, vous pouvez vous asseoir. Donc prions pour ça. Vous savez qu'avec la faculté d'Aix-en-Provence, c'est les deux seules facultés en France qui ont ce niveau académique qu'ils délivrent au niveau évangélique. Donc c'est important de prier. Pour que Dieu, plusieurs fois, vous devez fermer, il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas d'étudiants, etc. Donc, c'est toujours un combat pour maintenir une faculté de cette nature-là sur le sol de notre pays. Donc, prions pour cette faculté. Alors, nous avons des personnes qui sont en formation continue, hein. Il y a une formation initiale et aussi une formation continue avec Jeunesse en Mission, en partenariat avec Jeunesse en Mission. Donc, il y a Annie, qui, je crois qu'actuellement est encore en Suisse, mais devrait pas tarder à aller en Afrique du Sud jusqu'au mois de février, début mars, je crois, où elle applique aussi un petit peu ce qu'elle a appris au niveau des enseignements à Lausanne, Jeunesse en Mission. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur elle. Il n'y a pas de représentant là ce matin pour la représenter, mais régulièrement, on donne de ses nouvelles. Je vous invite à vous lever pour prier pour Annie et qu'elle puisse pleinement bénéficier de cette formation action pour qu'elle nous revienne transformée et qu'elle puisse apporter à l'Église ce qu'elle a reçu. Seigneur, prions tous à haute voix. Nous te prions pour Annie, Seigneur, et te demandons de la bénir et te demandons de poser ta main sur elle, ta servante, Seigneur. Merci de continuer à la secourir, à la fortifier, à l'aider, Seigneur, à marcher, Seigneur, de victoire en victoire, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, merci de ce que tu la gardes, Seigneur, de ce que tu bénis aussi, Seigneur, ce moment qu'elle vit, Seigneur, la séparation avec sa famille ne soit pas trop difficile. Seigneur, merci de l'équiper, de lui donner, Seigneur, tout ce dont elle a besoin, Seigneur, pour marcher, Seigneur, dans la victoire de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors toujours la famille Stéphane, ses fleurs, donc qui est là, et qui actuellement est en Australie. Elle a fait une mission en Inde. Donc elle encadre, enfin elle est dans une équipe d'encadrement où elle a différentes missions, chaque fois un peu différentes, pour servir à partir d'une base qui se trouve en Australie. Bon, là aussi, on a des informations régulières. Donc, prions pour elle, pour qu'elle trouve sa voie aussi. Et l'appel qu'elle a ressenti, elle puisse le transformer en mission, qui ne soit pas une charge pour elle, mais qui puisse vraiment la développer dans son caractère, dans sa manière d'être. Je vous invite à vous lever pour prier pour Fleur maintenant. Seigneur, te prions, Seigneur, de bénir Fleur et de lui accorder, Seigneur, vraiment ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu la fortifies. Jésus, Seigneur, merci de le bénir, Seigneur, aussi au niveau de ses cheveux, Seigneur, que tu l'encourages, Seigneur, à marcher de victoire en victoire, Seigneur, te louons, Père, Seigneur, de ce que tu lui donnes. caractère. Il a besoin, Seigneur, pour te servir, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Amen. Vous pouvez rester debout. On va changer un peu de position. On va prier aussi pour Baptiste et Ophélie. Vous les connaissez moins pour certains. En tout cas, on a procédé à leur mariage. Ils viennent aussi d'un milieu catholique, en tout cas pour Ophélie. Il fait vraiment des grands progrès dans la foi. Et maintenant, ils sont vraiment, vraiment unis ensemble en tant que couple. Et ils ont eu à cœur de servir en mission au Burkina Faso. Donc, où ils sont actuellement, je crois, jusqu'en mars ou avril. Enfin, ils sont pour 6 mois. Lui, il est kiné, elle est institutrice. Ils ont pris congé de leur travail pour aller en mission. Et on a régulièrement des infos hein, de leur part où ça se passe très bien et où ils servent de tout leur cœur. Donc prions pour eux, pour que Dieu vraiment les utilise aussi pour être formés lorsqu'ils reviennent, en particulier dans la région rouennaise, pour qu'ils puissent servir le Seigneur avec l'équipement qu'ils ont reçu là-bas en mission. Prions pour eux. Ils ont besoin, Seigneur. Tu leur accordes ta grâce, Père. Merci, Jésus. Parce que, Seigneur, tu pourvois tous leurs besoins, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les fortifier à tous égards. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour le secours de ta main. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Une autre personne que nous soutenons aussi, qui fait partie au travers des jeunes, de FLAC, de gens proches et qui ont servi l'Église aussi au niveau des jeunes, par exemple, toute une session, c'est Claudine. Donc on ne la voit pas très très bien, mais c'est elle qui est là, hein, Claudine. Sauvêtre. Et donc elle sert actuellement aussi, je crois qu'il est responsable de la base au Sénégal, Jeunesse en Mission, je ne sais pas exactement la ville, mais... Vous pouvez avoir d'autres infos sur elle. Et là, elle veut rester en Afrique, puisqu'elle veut même se marier avec un Africain, je crois. Elle se marie le 2 janvier. Donc on la verra avec son mari, alors. C'est un grand, je crois. Hein. Un grand noir, hein, très beau. Et donc voilà, elle est plus qu'africaine que... Oui, oui, oui. Mais elle est là pour la vie, hein. Voilà, donc elle se plaît là-bas et elle est vraiment engagée à fond. Tu as peut-être des nouvelles, non ?
À part ce mail où elle nous dit que finalement, parce qu'on priait pour qu'elle puisse avoir les papiers, et qu'elle se marie parce qu'il y avait des sortes de dates compliquées. Lui, par 6 mois là, en mission avec Jeunesse en mission, il va partir 6 mois loin d'elle et il va pouvoir se marier juste avant et il va pouvoir partir en mission.
Il commence bien là. Il est très missionnaire. Voilà. Bon, Claudine, c'est un des piliers avec Cathy et d'autres de FLAC à Rouen, avec les étudiants, quoi. Voilà. Et donc, elle est très, très une fille battante, quoi. Donc, prions pour elle, maintenant, pour que Dieu la bénisse et la garde et la fortifie, Seigneur. Merci. Seigneur, de bénir Claudine et de lui accorder ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu connais ses besoins, Seigneur. Tu bénis aussi son mariage, Seigneur. Tu permets, Seigneur, qu'il puisse vraiment servir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père, de tout notre cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Père, pour ta grâce. Seigneur, tu la fortifies maintenant, dans le nom puissant, puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous asseoir un instant. Je ne sais pas s'il est parmi eux, son mari, futur mari, non ? Bon, de toute façon, les photos ne sont pas très... peut-être qu'elle va le présenter quand elle va venir ici. Donc, tous ces missionnaires, nous les soutenons financièrement, hein, déjà. Mais je voulais vous montrer aussi les photos pour que vous puissiez les noter et que, de temps en temps, peut-être une fois par semaine, vous pouvez penser à eux dans la prière pour les soutenir. Donc, nous avons des soutiens missionnaires. Donc, ces missionnaires, nous les soutenons parce qu'ils sont issus de l'Église et on les soutient financièrement. Et donc, on a un rapport avec eux régulier. Et pour certains, ils reviendront dans l'Église, quoi. Pour d'autres, nous les soutenons, alors qu'ils sont à l'extérieur, mais pour lesquels nous sympathisons et que nous donnons aussi un soutien financier. Et donc, on voudrait aussi les présenter pour les soutenir. Donc, premier soutien qu'on a, c'est l'école de la source. Donc là, vous êtes bien représentés, parce qu'on les connaît, hein, donc Pierre et Adeline. Donc là, j'ai mis quelques photos. Ils sont très, très actifs dans cette éducation qu'ils veulent donner aux enfants. Et ils ont besoin de nos prières, hein, parce qu'ils se donnent à fond. Et c'est pas en partie, hein, c'est vraiment à fond. Et donc, on a besoin de les soutenir et tout le corps enseignant. Bon, ce serait trop long de parler de l'école ce matin, mais régulièrement, on a des comptes rendus et ils reviennent aussi nous parler de ça. Donc, on les soutient financièrement, mais on voudrait aussi les soutenir spirituellement. Donc, je vous invite à vous lever, à prier pour cette école, à prier pour les enseignants. Bon, il y a Sandra aussi qui est là, qui est enseignante, mais aussi Hélène qui est enseignante. Prions pour Pierre et Adeline, pour qu'ils puissent continuer à rester fermes. Vous voyez, Adeline aussi, un ministère au niveau de la lecture, elle a créé des manuels. Donc il y a une influence là sur la société au niveau de l'enseignement éducatif. Donc prions vraiment pour cette école maintenant. Seigneur, te donnons, Seigneur, ta grâce. Te donnons, Seigneur, de bénir, Seigneur, l'école, les fortifier, Seigneur, leur accorder, Seigneur, le secours de ta main. Père, te demandons vraiment, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur tous les besoins de cette école, Seigneur Jésus. Te demandons, Seigneur, de les fortifier, de les renouveler, Seigneur, dans leur vision, dans leur appel, Seigneur. Puisse tenir ferme, Seigneur, et marcher, Seigneur, dans la victoire, Seigneur, pour toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur cette école et fortifie les pères dans le nom puissant, puissant de Jésus. Amen. 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 L'autre ministère que nous soutenons aussi, missionnaire, c'est au Madagascar. Donc, c'est s'appelle Avotra, en malgache, ça se dit Aft. Aft, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'est d'un orphelinat avec le frère qui est en charge, qui est Richard Rajazon, que nous connaissons bien aussi. Donc, il se trouve à différents endroits, je crois, enfin, Tana, mais il y a aussi d'autres endroits. Et Elsa était déjà en mission là-bas avec eux. Donc, prions pour cet orphelinat, pour qu'on puisse continuer à se développer. Il y a de grands besoins. Et nous voulons vraiment les bénir dans la prière maintenant. Seigneur Jésus, te demandons de bénir cet orphelinat, Seigneur. Bénir notre frère à Jason et le fortifier, Seigneur. Que vraiment cette mission puisse continuer à se développer, Seigneur, pourvoir en besoin, Seigneur. Conduis, Seigneur, tous les besoins qui est là-bas, Seigneur, pour que, Seigneur, cette mission puisse vraiment servir à l'avancement de ton royaume, Père. T'en prions, dans le nom de Jésus, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, de bénir aussi ces enfants, Seigneur. Tu as tous les besoins qui sont là, Seigneur. Te prions de les visiter, Seigneur, puissamment. Et nous soutenons également Esperanza Viva. Alors, c'est un orphelinat que Jérôme connaît bien. C'est au Mexique, c'est au centre, je crois, par là. Ici? Ouais, c'est où? C'est là ou plus haut? C'est là? Tu me conduis, non? Ah, tu vois pas la carte? Mexico, c'est là, je crois. Bon, par là, voilà. Donc, dans cette région du Mexique, hein, le Mexique est très grand, hein, il fait 5 fois plus grand que la France. Bon, donc ils sont là, Jérôme les connaît bien, ils ont à cœur vraiment une œuvre pour toucher tous ces besoins énormes au niveau des enfants. Et vraiment, c'est une œuvre du Seigneur.
Et là, ils étaient entassés dans des tout petits locaux, ils ont commencé avec un, puis deux, puis trois bébés. Et là, il y en a 5 enfants, ils sont en train de construire vraiment, ils ont une vision, ils en sont à 150, 200 maintenant.
Problèmes administratifs aussi, je crois. Des problèmes administratifs, il me semble.
Oui, pour les permis de construire. Ouais. Pour tout, mais là, ouais. On a construit
D'accord, donc ils ont l'autorisation. Donc prions pour cette association aussi que nous soutenons financièrement. Père, on te prie pour Seigneur cet orphelinat. Seigneur, te demandons, Seigneur, de les bénir. De leur accorder, Seigneur, ta grâce, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le bienfait que tu nous accordes, Seigneur. Tu le bénis, Seigneur. Tu les aides, Seigneur. Et vous asseoir. La dernière œuvre que nous soutenons, tout au moins jusqu'à maintenant, puisqu'elle fait partie de la Fédération Baptiste, c'est la mission baptiste européenne que tous les ans on présentait aussi. Là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des œuvres pionnières, en particulier au niveau des microfinances, microfinancements pour aider les populations, pas simplement à être aidées, mais à ce qu'ils eux-mêmes puissent s'en sortir, construire des puits, construire des économies locales, etc. Donc c'est la famille Turquet, hein. En général ils passent en France pour se présenter, là on ne va pas les avoir, donc ils sont au Cameroun, il y a le Mozambique, la Sierra Leone, la Guinée, le Malawi, Centrafrique, Afrique du Sud. À la sortie devant la librairie, vous avez des petites brochures. Je vous invite aussi à la prendre et puis bien à présenter ces serviteurs de Dieu au Seigneur pour prier pour eux, qui est une œuvre qui est soutenue par la Fédération Baptiste Européenne pour continuer le travail, particulièrement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, pour le travail missionnaire qui se déroule là-bas. Je vous invite à prier pour. De manière assez générale, puisque je n'ai pas eu le temps de les présenter, mais de prier pour ces missionnaires qui dépendent de nous, hein, qui dépendent des églises européennes, pour continuer ce travail, qui puisse vraiment aboutir à l'édition de Christ là-bas. Je vous invite à la prière. Alléluia, Jésus. Ô Père, bénis, Seigneur, cette mission, Seigneur. Pour le nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, et fortifie, Seigneur, ces personnes, Seigneur, au nom de Jésus, ces missionnaires. Dans cette œuvre, Seigneur, te demandons ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Père, fortifie-les dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia, Jesus. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour tous ces missionnaires que nous ne pourrons pas détailler ce matin. Mais Seigneur, connais leurs besoins. Seigneur, tu vois qu'ils s'attendent à toi et qu'ils s'attendent aussi à l'Église en Europe pour continuer leur soutien. Seigneur, que ce soutien soit fidèle et qu'ils puissent poursuivre la mission qu'ils ont commencée, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment aider ces populations, aider à tout point de vue et les établir, Seigneur, dans une nouvelle dignité, dans une nouvelle dimension de ta grâce. Seigneur, bénis tous ces besoins. Et tous ces couples, toutes ces familles qui sont engagées là-bas, sur le front, Seigneur, te les remettons dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai demandé si vous pouvez vous asseoir un instant. J'ai demandé à Sylviane juste qu'elle vide une corbeille et que tu mettes une corbeille vide sur la librairie là. Et ceux qui veulent donner, spécialement la mission baptiste européenne, parce qu'on la soutient tous les ans, eh bien, vous pouvez mettre dans le panier vide que Sylviane va mettre. Dans le fond, pour que nous puissions l'envoyer à la mission baptiste. Je termine là pour la mission et je voudrais juste vous donner un clin d'œil sur d'autres sujets d'actualité qui me semblent nécessaires de partager pour que nous prions aussi en tant qu'Église pour cela. Et le premier élément qui est important, c'est la nouvelle identité de l'Europe, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. L'Europe rentre dans une phase, alors c'est moins spectaculaire que quand il y a eu le référendum, parce que tout le monde était, tous les citoyens étaient impliqués dans le référendum. Là, il y a des choses qui se sont passées dans les parlements, et donc il y a des votes qui se sont faits. Et le traité de Lisbonne qui a été proposé, d'ailleurs initié par Nicolas Sarkozy, entre autres quand il était président, a été adopté. Donc la constitution initiale qui avait été préparée par Valéry Giscard d'Estaing a échoué, et heureusement on avait prié pour ça, parce que dans le préambule de cette constitution initiale, il y avait des racines chrétiennes. Il y avait juste, on reconnaissait juste les lumières, les lumières, donc quelque chose de totalement séculier, voire occulte. Et là, dans ce traité de Lisbonne, suite à la prière qui était faite et suite à la grâce de Dieu, eh bien, dans le préambule, il y a maintenant la reconnaissance de cet héritage qui semble légitime, de l'héritage chrétien de l'Europe. Hein. Donc le préambule fait référence à l'héritage religieux de l'Europe et pas simplement de la Renaissance et de la culture. Dans l'article 10, deuxième élément, donc on lit les jours, mais dans l'article 10 de la Constitution, sachez que sur le plan spirituel, c'est très important parce qu'une Constitution, c'est un droit légal. Et l'ennemi joue sur la légalité parce qu'il ne peut pas intervenir dans le domaine humain sans l'autorisation des hommes légalement. Donc cet aspect légal empêche l'ennemi de faire n'importe quoi. Et nous, en tant que chrétiens, nous saisissons cette légalité pour nous affirmer, pour affirmer notre identité. Donc dans l'article 10, il est fait mention en disant qu'il autorise, donne le droit à toute personne de manifester sa religion en public. Ça, c'est une avancée considérable parce que, vous voyez, si on dessine la Marianne qui, depuis l'origine de 1789, a écrit la laïcité de manière restrictive, c'est-à-dire la religion ne peut s'exprimer que dans le domaine privé, puisque dans le domaine public, on ne veut pas qu'il y ait mélange avec la religion. On comprend les fondateurs de la République qui ne voulaient pas que l'Église catholique continue à se mêler de politique. Et c'est vrai que l'Église catholique dictait toutes les lois morales, etc., et même politiques. Donc on comprend bien. Mais le problème, c'est que cette constitution nous empêche, nous, en tant que chrétiens, d'exprimer notre foi publiquement. Et à chaque fois qu'on veut faire l'évangélisation, bon, à part Paris ou certains secteurs où bon, les autorités locales prennent sur eux parce qu'ils le peuvent, mais ailleurs, légalement, on ne peut pas exprimer notre foi publiquement. Et c'est ce qui est un particularisme de la France. Et ce particularisme est cassé au 1er janvier prochain, par la grâce de Dieu et grâce à l'Europe. Grâce à cette nouvelle constitution qui chapeaute la constitution française. Bon, on a toujours la constitution française, mais on peut avoir recours à cette constitution européenne, puisqu'on fait partie de cet ensemble de pays. Et donc, la laïcité devient positive. Vous savez tous ces messages que Sarkozy envoyait, laïcité positive, aussi relayée par les ministres et tout ça, bon, qui ont beaucoup été discrédité par les médias qui ne veulent pas entendre, parce que les médias, les journaux, tout ça, sont très très laïques, hein, au sens ne veulent pas Dieu. Mais ça, maintenant, c'est mis à mal. Et dans la nouvelle constitution, les ministres des cultes, alors bien sûr, il n'y a pas que les chrétiens, hein, mais tous les ministres des cultes, sont consultés pour un dialogue, pour qu'ils donnent leur avis sur la politique. Hein. Donc ça, c'est nouveau. Donc l'article 16, C indique que la Constitution, donc l'Europe doit respecter les églises et maintient un dialogue ouvert avec ces églises. Donc le président, qui est aussi maintenant un nouveau président, qui va représenter l'Europe, qui va nous représenter, donc européens, eh bien il sera obligé d'inviter régulièrement les ministres des cultes pour prendre connaissance, donc y compris les cultes évangéliques et protestants, quoi. Donc ça, c'est vraiment nouveau, hein. C'est un peu comme si en France, eh bien régulièrement, le président prend connaissance des conseils que donnent les ministres de culte. Donc ça, c'est maintenant effectif dans la Constitution à partir du 1er janvier, c'est le traité de Lisbonne qui a été adopté par l'ensemble des Européens. Et donc ça, c'est le nouveau président, si vous ne l'avez pas vu, voilà sa photo. C'est l'ancien Premier ministre qui est très rompu à faire attention, puisque il faut qu'ils tiennent compte des sensibilités en Belgique entre les Flamands et les Wallons, qui sont très très difficiles à manœuvrer. Donc ils l'ont choisi pour avoir cette stature. C'est un croyant, hein, catholique, mais croyant. Et donc, il veut affirmer les valeurs de l'Europe. Donc, il faut prier pour lui, parce qu'il va mettre en œuvre cette nouvelle constitution. Il est élu pour 2 ans et demi, renouvelable, donc il peut être 5 ans président, au même titre que le président des États-Unis, que le président de la Chine, le président de l'Inde, etc. Il représente l'Europe, qui est aussi une nouveauté, puisque ça n'a pas existé jusqu'à présent, puisque c'était une présidence tournante, avec aucun moyen. Donc lui, il a une ministre des Affaires étrangères, qui est anglaise, qui présente la politique, elle est ambassadrice de l'Europe. Et vous voyez, donc on peut avoir une voix de parole, donc il faut être présent. Et à Bruxelles, maintenant, il demande déjà à ce que des pasteurs viennent pour régulièrement venir à Bruxelles pour donner leur avis sur des lois ou des choses comme ça qui vont être proposées. Donc c'est tout à fait nouveau et je vous propose donc de prier pour cette ouverture en Europe sur la question religieuse, pour qu'elle influence les autorités et les médias françaises à laisser plus de place à l'Église dans l'espace public. Hein, c'est pour nous une occasion, dans l'évangélisation, dans le fait que nous voulons faire avancer le royaume de Dieu dans ce pays, nous pouvons nous saisir de ces lois légales. Bien sûr, il faut le faire avec sagesse, hein, parce que il y aura toujours des gens qui... Mais on peut le faire et on ne peut plus nous en empêcher. Donc, je vous invite à vous lever pour prier, pour que nous puissions saisir cette opportunité positive pour la foi de l'Évangile dans notre pays et en Europe en particulier. Seigneur, nous te prions et nous te remercions tout d'abord pour ce que tu as permis, que cette Constitution soit adoptée et qu'elle puisse être mise en œuvre maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous y voyons un clin d'œil, Seigneur, pour que cette Europe puisse être à nouveau réévangélisée, sans que, Seigneur, il y ait, Seigneur, des blocages législatifs, Seigneur, des blocages, Seigneur, qui peuvent nous empêcher, Seigneur, en particulier en France, Seigneur, que nous puissions nous saisir, que l'Église puisse se saisir de cette opportunité pour être plus en avant, Seigneur, dans, Seigneur, ce qu'elle a apporté au monde, Seigneur, de ta part. Seigneur, donne-lui la sagesse aussi pour le faire. Donne-lui, Seigneur, ta grâce pour le faire. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour tout ce que nous allons vivre, Seigneur, à partir de ce que tu as permis que ça existe. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La deuxième chose, qui est plutôt négative, celle-là, qui n'a rien à voir avec la Constitution, mais c'est les prises de position de l'Europe et de l'ONU contre Israël, pour la condamner, hein, par rapport à ce que fait Israël. Bon, c'est peut-être condamnable d'un point de vue humain, c'est vrai que là, on ne rentre pas dans le débat politique, mais disons, indirectement, ils se mettent contre la volonté de Dieu pour, en particulier, ils décrètent que Jérusalem Est serait la capitale de la Palestine. Donc forcément, ils vont provoquer la guerre, hein, encore plus entre les deux entités, puisque Israël considère que c'est Jérusalem, la capitale, que Dieu leur a donnée. Donc ces prises de position qui ne vont pas dans le sens d'un apaisement de ce conflit, donc prions pour que les choses puissent ne pas être prises dans ce sens-là, que le Seigneur amène vraiment sa paix et sa sagesse. Invoquons le Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, et te demander que tu fasses grâce, Seigneur. C'est toi qui as choisi Israël. C'est vrai que c'est une pierre d'achoppement pour les nations, Seigneur, mais Seigneur, nous te prions pour que l'Europe puisse bénir Israël et Seigneur, malgré les difficultés, ne pas suivre le mensonge de l'ennemi, Seigneur, afin que Seigneur, tu as dit que ceux qui bénissent Israël sont bénis, Seigneur, et que nous puissions être de ceux qui bénissent Israël, Seigneur. Nous prions aussi pour l'ONU, afin que là aussi les prises de position puissent être modifiées, et Seigneur, que ce ne soit pas une prise contre Israël, mais que Seigneur, chacun puisse voir le plan de Dieu. Seigneur, nous te prions pour ce pays, afin que tu le bénisses, que tu le gardes, et que tu nous gardes dans ta main. Nous prions au nom de Jésus. Amen.